Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition, en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans ou un peu partout ailleurs. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'un cinéaste toujours parmi nous, mais hélas beaucoup moins connu par les jeunes générations qu'il ne l'a été dans les années 70 et 80, où il a tourné l'essentiel de son œuvre. Yves Boissé, un cinéaste français né à Paris le 14 mars 1939, qui a donc maintenant un âge assez respectable, et qui a suivi, avant d'en arriver à la réalisation en 1968, soit à 30 ans à peu près, passé, qui a suivi donc un parcours qui était à l'époque très ordinaire pour les apprentis cinéastes, qu'il est beaucoup moins maintenant, où chacun, avec sa webcam ou même son téléphone portable, peut tourner une soi-disant super production dans sa chambre du 16e arrondissement. Mais bref, je m'égare. Yves Boissé, quant à lui, eh bien, a d'abord fait l'IDEC, la prestigieuse école d'études cinématographiques devenue aujourd'hui la FEMIS, avant de devenir assistant réalisateur, c'est-à-dire un peu homme à tout faire, pour une trentaine de films signés par de grands réalisateurs comme Jean-Pierre Melville, Claude Sauté, Vittorio De Sica et René Clément, excusez du peu. Donc on peut le dire, pendant 8 ans, l'homme s'aguerrira. Je ne sais pas si le futur peut s'en employé, mais en tout cas, l'homme apprendra son métier de futur réalisateur auprès de grands réalisateurs. Parallèlement, et ça ne sera pas sans influer sur le cours et le contenu de sa filmographie, eh bien, Yves Boissé sera aussi critique de cinéma dans des revues spécialisées, notamment le mythique Midi Minuit Fantastique, qui était consacré au cinéma d'horreur et d'épouvante à une époque où il n'était pas encore sous la forme de blockbuster. On va en rester là sur le début de sa carrière, car sinon ce serait trop long, et on va écouter un premier extrait d'une bande originale qui n'est pas celle de son premier film. Je reviendrai à son premier film après. Un film tourné en 1971 qui s'intitule Le Sceau de l'Ange. Je vous en dirai un petit peu plus après, mais on écoute ce premier extrait. Le Sceau de l'Ange, je vous précise quand même qu'il s'agit d'une musique du regretté François de Roubaix dans 24 notes secondes. Les étonnantes sonorités de François de Roubaix pour un extrait de la bande originale du 4e film d'Yves Boissé auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes, Le Sceau de l'Ange, un film tourné en 1971 et qui racontait, en gros, une bataille électorale à Marseille entre un clan de Corse et un promoteur immobilier. On se demande où ils vont chercher tout ça. Rien de tout ça n'existe dans la réalité, en tout cas, bien sûr, n'existe plus presque un demi-siècle plus tard dans les rôles principaux, et notamment du du chef du clan corse, ont trouvé le gouléant, mais lui aussi bien oublié, Jean-Yann. Et puis, et c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la carrière de critique de cinéma d'Yves Boisset, ont trouvé à ses côtés l'américain Sterling Hayden, un grand monsieur que vous avez peut-être oublié, mais un grand monsieur à tous les sens du terme, car il devait faire plus de 2 mètres, et un grand acteur qu'on a vu dans beaucoup de films noirs des années 50, et notamment dans Quand la ville d'or de John Huston, sa mort au milieu des chevaux à la toute fin du film sur une musique de Miklos Rossa est restée célèbre pour les cinéphiles. Quand vous cherchez sur YouTube, tapez plutôt The Hasfat Jungle, ça sera plus rapide. Je vous ai dit que c'était le 4e film d'Yves Boisset, puisque l'homme avait commencé en 1968 avec un travail de commande, Copland sauve sa peau. Copland, c'était un peu l'OSS 117 du pauvre, pour rester dans des références qui vous diront quelque chose. Mais même sur ce Copland sauve sa peau, Yves Boisset avait déjà réussi à placer quelques références de sa grande culture cinématographique, puisque, entre autres écritures, il avait collaboré à la première édition aux côtés de Jean-Pierre Coursaudon et de Bertrand Tavernier, lui aussi destiné à devenir un réalisateur connu, de la somme intitulée 20 ans de cinéma américain, qui reste encore actualisé, un monument pour les cinéphiles, à bibliocinéphiles, on va les appeler comme ça. Avait suivi ensuite, après Copland sauve sa peau, le Cran d'arrêt de la même eau, et puis son premier film véritablement engagé, Incondé, qui avait provoqué un mini-scandale. Alors là encore, on a l'impression d'être sur une autre planète, puisque le film avait été non pas interdit, mais le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait à l'époque Raymond Marcellin, ceux qui se souviennent des événements de mai 68 ne l'auront pas oublié, avait demandé carrément 25 minutes de coupure sur un film de 1h30. Ça faisait quand même beaucoup. Et même à l'époque, la commission de censure s'était rebellée finalement. On avait enlevé 40 secondes de film, et notamment une réplique que je vous cite, je ne fais que citer, « Tous les flics sont des ordures et vous êtes une ordure, inspecteur ». Bref, tout ça ne plaisait pas beaucoup à l'époque, et là encore, tout ça n'a plus rien à voir. Dans les rôles principaux, il y avait, je les cite pour le gouléant là encore, Michel Bouquet, Françoise Fabian, Michel Constantin, bref, des grands seconds premiers rôles. Et en tout cas, avec Incondé et puis donc le Sceau de l'Ange, dont la... je dirais la tonalité politique était quand même très forte, et eh bien la carrière d'Yves Boisset était toute tracée. L'homme fera ses meilleurs succès avec des films un peu polémiques sur des sujets qui n'étaient pas moins. Et c'est le cas du film suivant, duquel nous allons écouter là encore un extrait musical. Un film de 1972 intitulé « L'attentat » qui est, pour le faire très vite, et j'y reviens après l'extrait musical, une transposition romanesque de la célèbre affaire Ben Barka. La musique, elle est signée d'Ennio Morricone. C'était l'époque bénie où les cinéastes français pouvaient encore se payer les services d'Ennio Morricone. Ça ne durera pas. On en écoute un extrait. « L'attentat », Yves Boisset, 24 notes secondes.
Thank you.
L'exigeante, la très exigeante, je le reconnais, partition d'Ennio Morricone pour L'Attentat, un film d'Yves Boisset tourné en 1972. Les fans d'Ennio Morricone auront peut-être reconnu des inspirations qui lui resserviront quelques années plus tard, je ne saurais pas trop. Lesquelles pour L'Exorciste 2, L'Hérétique de John Boorman, où on retrouvait des sonorités assez comparables. Quant à L'Attentat, eh bien, comme je l'ai dit, c'était un film très clairement inspiré de l'affaire Ben Barka, cet opposant mystérieusement, entre guillemets mystérieusement, enlevé à Paris en 1965 et qu'on cherche toujours. Dans le film d'Yves Boisset, eh bien, le Ben Barka s'appelait Sadiel et était joué par Gian Maria Volonté, un acteur italien très réputé pour les rôles politiques qu'il joua dans ces années 60-70. Mais j'ai vraiment l'impression de parler d'une autre planète. À ses côtés, dans le rôle de Kassar, qui était une allusion transparente au colonel Oufkir, le ministre de l'Intérieur marocain qui, d'après toutes les sources, mais ne me poursuivez pas pour ça, est responsable de l'enlèvement de Ben Barka, eh bien Kassar était interprété par Michel Piccoli. C'est vous dire que dans ce film de Yves Boisset, eh bien, il n'y avait que du lourd, puisque à leur côté, on retrouvait Jean-Louis Trintignant, Philippe Marais, François Perrier, Michel Bouquet, Bruno Kremer, excusez du peu, bref, les plus grands premiers rôles du cinéma français pour un film politique consacré à la situation au Maroc. Est-ce que j'ai bien résumé l'écart qui nous sépare de 1972? Oui, je crois. Du coup, on va enchaîner avec un autre film. Alors, non sans mentionner au passage qu'en 1973, et là encore, vous pourrez mesurer le fossé, eh bien, Yves Boisset consacra à la guerre d'Algérie un film intitulé RAS, c'est-à-dire rien à signaler. Et évidemment, le film lui-même était l'antonyme total de son titre. Un film qui, lui, eut tous les ennuis possibles et imaginables avec la censure. Tous les financements officiels lui furent retirés. Yves Boisset, avec un courageux producteur que je cite, Yvon Guézel reprit le tournage. Personne n'y croyait, le film sorti en plein été 1973 et ce fut un grand succès commercial. Là encore, j'arrête. On va passer à un autre film, mais là encore, je pense que les connotations avec l'actualité seront proches. Un film tourné en 1975 avec Jean Carmé dans le rôle principal. Ça s'appelait Dupont-Lajoie et je pense que le titre lui-même a fait fortune. On écoute un extrait de la bande originale, curieusement signée du grand Vladimir Cosma, et on en reparle un petit peu après dans 24 notes, second. Voilà, finalement, en y réfléchissant, le choix de Vladimir Cosma, du sympathique, du populaire Vladimir Cosma pour la musique de Dupont-Lajoie n'était pas si mal choisi parce que Dupont-Lajoie, donc le film d'Yves Boisset auquel nous consacrons cette émission de 24 secondes, c'est un peu l'anti-camping. puisque, enfin j'espère, puisqu'on y voyait Jean Carmé dans le rôle de Georges Lajoie, assassiné, sans le faire exprès bien sûr, une jeune femme incarnée par la toute jeune Isabelle Huppert et faire porter le chapeau du crime à un groupe de travailleurs algériens, fort judicieusement, pas pour eux, mais pour Georges Lajoie, fort judicieusement présent sur un chantier proche. Le tout finissait avec un lynchage, puis une vengeance. Bref, un film bien poisseux et qui attaquait, et c'est le moins qu'on puisse en dire, le racisme de front, à une époque où, là encore, ce n'était pas si fréquent. Jean Carmé y était absolument exceptionnel, mais on peut s'en douter, car c'était... presque le rôle de sa vie, en fait, un peu comme, si vous m'osez la comparaison, Michel Galabru dans Le Juge et l'Assassin, c'est-à-dire un personnage à veule, à complètement à contre-emploi du Jean Carmé sympathique qu'on peut imaginer, mais qui faisait absolument merveille, si je puis dire, d'autant plus qu'à ses côtés, on retrouvait les solides Pierre Tornade, Jean Bouise ou Jean-Pierre Marielle, c'est dire, bref, la fine fleur du cinéma français de l'époque. Le scénario était signé de Jean-Pierre Bastide, de Michel Martin, ce qui, l'un comme l'autre, se fera de ma part, ont écrit beaucoup de polars, peut-être moins connus et moins engagés que ceux du célèbre Jean-Patrick Manchette, mais en tout cas, qui, dans les années 70, eh bien, portait une parole politique tout à fait forte et tout à fait puissante pour un film qui ne fut pas sans provoquer un certain nombre de scandales à sa sortie. Mais Yves Boisset disait bien que pour lui, il s'agissait avant tout de faire des spectacles populaires, et tant mieux, entre guillemets, s'ils avaient une dimension politique, s'ils invitaient les gens à faire, comment s'appelle ce verbe déjà ? Ah oui, réfléchir ! Mais je vous parle des années 70. Allez, on va rester dans la même veine, si on peut dire, avec un autre film signé d'Yves Boisset, bien sûr, un film tourné en 1975, donc peu de temps après, et sorti... En 1977, pardonnez-moi, je vous expliquerai ma confusion tout à l'heure. Un film sorti en 1977, la musique cette fois est signée de Philippe Sartre, ça s'appelle Le juge Fayard dit le shérif. Un petit extrait dans 24 notes secondes.
Thank you.
La très belle partition de Philippe Sard pour Le juge Fayard dit le shérif d'Yves Boisset, un film tourné en 1977, mais qui était tout chaud inspiré de l'assassinat du juge François Renault, qui lui était survenu, pardonnez-moi, le 3 juillet 1975, comme cité tout à l'heure, soit 2 ans auparavant. Bref, Yves Boisset collait à chaud à l'actualité avec cette histoire d'un jeune juge d'instruction intègre, incarné par le non moins intègre Patrick Devers, et qui finissait par être mystérieusement assassiné dans la petite ville où il avait sans doute dérangé des intérêts trop bien placés. Petite ville où d'aucuns pouvaient très facilement reconnaître la ville de Saint-Étienne. Comme le temps tourne, et bien hélas, nous n'aurons pas l'occasion d'évoquer plus avant la carrière de Yves Boisset. Je citerai encore un autre film important, Allons enfants, tourné en 1981 et consacré aux enfants de troupes. Je vous dirai aussi qu'Yves Boisset a beaucoup tourné pour la télévision, et notamment à partir du moment où, hélas, ça a été un peu plus difficile pour lui au cinéma. Et parmi ses nombreux films pour la télévision, on retiendra certainement L'affaire Seznec, tournée en 1993, qui était là encore une occasion d'évoquer un fait divers beaucoup plus ancien. On peut aussi indiquer que Yves Boisset a écrit sa biographie, ça s'appelle « La vie est un choix ». Très joli titre, en 2011. Bref, on peut se dire que nous étions dans des années où, je dirais, le cinéma français avait une dimension politique qu'il n'a peut-être plus vraiment. D'ailleurs, j'en terminerai presque là-dessus. Quand il sortit en 77, le juge Fayard accumula 1 758 000 entrées en fin d'exploitation. Il fut repris en 2014 et il totalisa, bon, effectivement, bien longtemps après, 1309 entrées précisément. Bref, on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale d'Espion lève-toi, un film d'espionnage assez classique avec Ventura, Piccoli, Kremer et quelques autres. La musique était signée encore d'Ennio Morricone. Je ne vais pas interrompre le maître. Donc je vous dis dès maintenant, au revoir, à bientôt, see you, bye bye.